Bonjour à tous. Ben moi aussi, je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, la joie de que nous approchions ensemble de ce Père céleste qui va faire venir dans nos cœurs toute sa bonté, toute sa grâce, pour nous nourrir, pour nous restaurer, pour nous relever. Je vais vous lire trois psaumes. Pourquoi trois ? Parce que d'abord, ce sont des psaumes qui se suivent chronologiquement. Et ensuite, le défi, pour ne pas vous endormir, ce sera de chercher le rapport qu'il y a entre ces psaumes. Rapport que, bien sûr, c'est un défi pour moi d'abord, d'arriver à vous le partager et à développer ces pensées devant vous. Mais en préambule, je voudrais vous dire combien c'est important pour que nous grandissions, pour que nous devenions de cette petite fille que nous sommes tous, à ces chrétiens matures que le Seigneur nous appelle à devenir, et bien que nous nous nourrissions convenablement. Il était question d'excès de table, et à l'inverse, il nous est demandé de nous nourrir de bonnes choses. Et la nourriture, évidemment, que le Seigneur nous propose, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui la nourriture. C'est lui le pain. Il a dit lui-même, je suis le pain. Et dans Jean 6, il a dit, celui qui me mange, c'est des paroles difficiles à entendre, ça d'ailleurs les disciples n'ont pas compris, celui qui me mange et qui boit mon sang, alors c'est encore plus terrible, surtout dans le siècle que nous vivons, qui boit mon sang, vivra éternellement. Mais si les disciples avaient bien écouté, les paroles qui suivent expliquent tout. Les paroles que je vous dis, dit Jésus, sont esprit et vie. C'est donc spirituellement qu'on se nourrit du Seigneur, c'est donc spirituellement que l'on boit son sang. Et je voudrais prendre cette image, toujours dans mon introduction, avant de lire les psaumes, je voudrais prendre cette image de la Pâque. Vous connaissez bien sûr la Pâque juive, les différents éléments, je ne vais pas faire une prédication là-dessus, mais on s'arrête souvent, et à juste titre, sur le sang qui était à la Pâque, où le papa israélite mettait sur les poteaux et le linteau de la porte, et évidemment tout ce qui était à l'abri de la maison était sauvé de l'ange destructeur qui devait passer dans la nuit. Et on se sert souvent de cette image pour les écoles du dimanche, pour les camps de jeunes, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ou qui n'ont pas fait le pas de croire en l'œuvre de Jésus, à la croix qui a versé son sang, tout ce que nous avons chanté, tout ce que nous avons dit tout à l'heure, et de mettre leur confiance dans l'œuvre de Jésus de manière à être sauvés et à être à l'abri. Eh bien, il y a un autre élément dans la Pâque qu'on oublie souvent, c'est ce qu'il faisait ensuite. Et ce qu'il faisait ensuite, eh bien, il mangeait l'agneau. Alors ça, c'est un rite, bien sûr, qu'on connaît, mais ça a une signification spirituelle pour nous. Manger l'agneau, ça veut dire, dans la pensée de Dieu, de l'époque, bien sûr, cet agneau qui a versé son sang, qu'il occupe vos pensées. C'était un agneau qui avait été mis en garde, qui avait été protégé pendant longtemps pour qu'il soit à l'abri de tout, qu'il était parfait. Évidemment, ça nous parle du Seigneur Jésus. Et cet agneau, il devait s'en nourrir, alors pas n'importe comment, il devait le faire rôtir. Enfin, vous lirez tout ça dans le chapitre 12 de l'Exode. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que si nous voulons grandir, si nous voulons devenir des chrétiens stables et fiables et tenir la route dans les temps difficiles qui sont les nôtres et qui vont devenir certainement de plus en plus difficiles, eh bien, il faut que nous ayons des forces. Il faut que nous ayons que notre estomac spirituel ait de la bonne nourriture, un bon bif. Et écoutez, au travers de ces psaumes, j'espère de tout cœur, que vous aurez un bif, que le Seigneur vous le donnera, nous le donnera, parce qu'il est bon et parce qu'il veut le faire. Alors, je vous propose donc d'ouvrir vos Bibles, je ne sais pas si, Alexis, tu pourras le mettre, le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24 vont faire l'objet de notre méditation et de notre nourriture. Le psaume 22 étant un peu long, on ne lira que les 20 premiers versets, 23 premiers versets, puis on lira le psaume 23 et le psaume 24. Je ne sais pas si tu... Non, tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Avant de lire ta parole, Seigneur, je veux te prier. Je veux te prier pour moi-même, pour que, Seigneur, tu ouvres ma bouche, pour que ton onction soit là, pour que ton esprit soit libre au-dedans de moi, libre, Seigneur, de toute pression inutile, et que ton esprit soit libre aussi dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs ici présents, pour que vraiment, Seigneur, ta parole rentre dans nos cœurs et nous nourrisse pleinement, Seigneur. Vois nos faiblesses, vois, Seigneur, nos manquements, vois aussi, Seigneur, nos distractions. Seigneur, que ton esprit nous aide dans toutes ces choses pour que nous puissions vraiment recevoir ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 22, c'est la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, tu les délivrais, ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Verset 13, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, ils se fondent dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as répondu d'entre les cornes du buffle, et je publierai ton nom parmi mes frères. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondée sur les mers et l'a fermée sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face, ô Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Pardonnez-moi pour cette longue lecture, mais je pense qu'elle en valait la peine. Je disais, le psaume 22, c'est la croix. Ce n'est pas la peine de vous convertir à cette pensée, vous le savez. Ne serait-ce que les quelques allusions qui y sont faites, la première parole prononcée par Jésus sur la croix, ensuite ils ont percé mes mains et mes pieds, alors qu'à l'époque c'était la lapidation qui était le moyen de mettre à mort. Et là, percer les mains et les pieds, c'est la crucifixion, ce que faisaient les Romains. Donc tout cela nous montre bien que l'Esprit de Dieu s'est servi de David et d'une épreuve qu'il vivait probablement quand il devait quitter la cour du roi Saül, probablement, et qu'il perdait sa femme, son ami Jonathan et ses amis, et qu'il perdait aussi toute la gloire de ses conquêtes militaires, certainement. Mais ce psaume 22 est dans notre Bible pour nous parler du Seigneur Jésus. Je pense que vous en êtes convaincus. Et arrêtons-nous sur ce premier verset. En général, dans les psaumes, le premier verset donne le ton, donne la teneur du psaume, donne la pensée principale. Et c'est ce que nous trouvons là dans ce psaume 22. Que dire quand nous entendons ce cri ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Repris, comme je le disais, par Jésus. Et même plus que ça, dans sa langue maternelle. Élie, Élie, lama sabachthani. L'évangile va jusque-là, nous donner dans quels mots Jésus a prononcé ces paroles. À ce cri, que répondons-nous, chers frères et sœurs ? Qu'est-ce que nous pouvons dire chacun de nous ici ? Mais c'est pour moi que tu as été abandonné. C'est pour moi. Combien c'est de nature à déjà toucher nos cœurs que... On l'a chanté plusieurs fois et Jérémie nous l'a amené plusieurs fois dans la louange. Ce qui fait notre joie, ce qui fait la colonne vertébrale de notre christianisme, c'est bien ce qui s'est passé à la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Mais là, il nous faut aller plus loin. Il nous faut aller plus loin. Parce que, voyez-vous, la différence qu'il y a entre le psaume 22 et l'évangile qui nous parle des faits de la crucifixion, il y a une grande différence malgré tout. On pourrait dire que c'est une répétition dans nos Bibles, pas du tout. Dans l'Évangile, c'est plutôt le côté factuel. On nous raconte ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent de ce qui s'est passé. Là, dans le psaume 22, le Seigneur nous fait le cadeau. Le cadeau, c'est un faible mot. Le privilège, la bénédiction, je ne sais pas comment le dire, de nous montrer ce qui se passait dans l'âme de notre Seigneur à ce moment-là. Et c'est ça qui est précieux, c'est ça qui est pour nos cœurs et de l'édification, de la nourriture. On se rend compte en lisant le psaume 22, ce que le Seigneur Jésus a ressenti dans son âme quand il a vécu la croix. Mais si on fouille encore un peu, à quel moment il a poussé ce cri ? Vous savez que le Seigneur Jésus est resté 6 heures sur la croix. Il a été crucifié à 9 heures du matin et il est mort à 3 heures de l'après-midi. Ce cri, il l'a poussé à midi. À midi, c'est-à-dire au milieu de sa crucifixion. Et il est dit dans l'Évangile que c'est à ce moment-là que les ténèbres sont venues sur toute cette contrée, on va dire tout ce pays. Et ce cri démarre le moment où Jésus portait nos péchés. C'est ça qui est très important. Jésus souffrait là l'abandon de Dieu. C'était pour lui quelque chose d'impossible. D'ailleurs, il l'avait déjà pressenti à Gethsémané. C'était terrible pour lui d'être coupé de quelqu'un avec qui il n'avait jamais été coupé en relation. Et là, il a dû s'écrier « Mon Dieu, mon Dieu ». Pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que réellement, il vivait un abandon. Cet abandon, c'était que Dieu, dans sa sainteté, tournait son regard de son Fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, on ne s'en rend pas compte, vraiment. Mais ça vaut la peine de repasser ça dans nos cœurs pour essayer avec, en quittant nos chaussures, parce que nous sommes sur un terrain tellement saint. Mais d'essayer de se rendre compte combien ça a été pour le Seigneur. Bien sûr, il y a eu les souffrances physiques, souvent on s'arrête là, mais cette souffrance morale d'être coupé dans sa communion avec Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Une partie de la réponse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour nous, c'est pour moi que Jésus mourait. Mais il y a un autre élément dans la réponse. C'est au verset 4. Pourtant, tu es le saint. Et ça, c'est le côté de Dieu. La sainteté de Dieu exigeait qu'un coupable soit puni à cause du péché. Vous savez, il n'y a absolument aucun péché qui ne rentrera au ciel. Pas même le plus petit mensonge, la plus petite colère, rien ne rentrera au ciel. Aucun péché, pas possible. Dieu étant saint, le prophète Habacuc nous dit que Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Si donc aucun péché ne rentrera au ciel, qui d'entre nous peut y aller sur cette base-là ? Il faut qu'il y ait quelque chose qui intervienne, vous êtes d'accord avec moi ? Vous connaissez la bonne nouvelle. Dieu a fait tomber sur Jésus le châtiment que nous méritions, le châtiment que méritait le péché. Je sais que certains d'entre vous savent ces choses et y croient à 100%, mais ça vaut la peine de les répéter. D'abord pour les plus jeunes, ceux qui sont convertis depuis peu de temps, ceux peut-être qui ne sont peut-être pas convertis parmi nous, qui s'intéressent aux choses de Dieu, mais qui n'ont pas encore fait le cheminement jusqu'au bout, jusqu'à reconnaître Jésus comme leur sauveur personnel, ça vaut la peine d'expliquer ce qui s'est passé à la croix. Ça vaut la peine de voir que si pour nous le salut est gratuit, la vie éternelle est gratuite, combien le prix a été lourd à payer pour notre sauveur. Dieu est saint, aucun péché ne rentrera au ciel. C'est un peu comme si l'instituteur disait, ou l'inspecteur disait, pour passer en classe supérieure, les enfants, il faut que tout le monde ait 20 sur 20. Sinon, vous ne passez pas. Quel désespoir, d'abord pour l'instituteur lui-même, et puis pour ses enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un va se présenter et il va dire « j'ai 20 sur 20 et je vous l'accorde ». Mon histoire, elle vaut ce qu'elle vaut, mais vous comprenez dans quel sens on peut parler de ce que Jésus a fait à la croix. Lui a eu 20 sur 20. Lui a acquis tout ce qu'il fallait aux yeux de Dieu pour que nous puissions être justifiés, graciés et pardonnés. Mais n'oubliez jamais la sainteté de Dieu. Vous savez, encore cet exemple. Après, il faut que je passe au psaume 23. Encore cet exemple. Dans Ésaïe 6, vous avez un homme qui est un prophète, qui s'appelle Ésaïe, évidemment. Ésaïe 6, il voit le Seigneur dans une vision. Il voit le Seigneur qui est assis sur son trône et les anges volent autour, les séraphins. Il crie, vous connaissez cette image, on la chante quelquefois dans un chant de Fabienne Ponce. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe, quand il voit le Seigneur, il tombe par terre. Il dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu le Seigneur. Et je ne peux plus vivre. Il savait, d'après la loi, que quelqu'un qui voyait le Seigneur, ça n'était fait. Tellement que Dieu est saint. Et après, vous savez dans l'histoire aussi qu'il y a une solution. Il y a un ange qui vient avec une braise qui touche ses lèvres. Image du salut encore. Comme l'image du sang dont je parlais tout à l'heure sur les portes. Alors pour ceux qui aiment fouiller un peu dans leur Bible, je leur donne cette petite indication. Dans Jean 12, il est dit que celui qui était sur le trône et autour duquel voler les séraphins, c'est Jésus. J'ai dû lire ma Bible plusieurs fois de suite pour me dire, tu ne te trompes pas. Et non, le texte dit bien, Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Et dans le contexte, il s'agit bien de Jésus. C'est nous montrer que, dans l'Ancien Testament, la personne, et on va le voir tout à l'heure dans le psaume 24, la personne, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais peut-être certains arriveront à me suivre, la personne de Jésus et la personne de Dieu, l'Éternel, est étroitement liée. ça nous montre vraiment que Dieu s'est donné lui-même pour nous à la croix. Bon. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là encore, le premier verset donne la note de tout le psaume. Confiance absolue. Je ne manquerai de rien. Mais qui est-ce qui parle là ? C'est une brebis. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui parlent. Ce sont vous et moi, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit leur sauveur. C'est ça les brebis du bon berger. Si vous lisez dans Jean 10, vous verrez, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis et je marche devant elles, elles connaissent ma voix. Donc c'est une brebis qui parle. Et moi, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que si vous avez donné vraiment votre cœur au Seigneur, ce que je crois bien sûr, n'ayez aucun doute, le Seigneur est votre berger. Même s'il y a des choses qui vont vous dire le contraire, même si même votre propre cœur vous dit le contraire, si vous avez donné votre cœur au Seigneur, le Seigneur est votre berger. Et donc, vous devriez pouvoir être dans la confiance absolue. Vous ne manquerez de rien. Ensuite, il y a des versets qui parlent de ça, des vers pâturage, des eaux paisibles, la restauration de l'âme. Et nous allons nous arrêter sur le verset 4. Parce que là, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie qui sont difficiles à vivre, des épreuves, symbolisées là par la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée est difficile à envisager, cette vallée est difficile à vivre. Il nous faut donc quelqu'un qui nous aide à la traverser. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la brebis là, elle ne dit plus « il » en parlant du Seigneur. Mais elle dit « tu ». Ça fait une sacrée différence. Ça veut dire, dans l'épreuve, je m'adresse au Seigneur. Ce n'est plus celui qui est ceci, celui qui est cela, en qui je crois. C'est dans ma prière. Je vais au Seigneur et je lui dis « tu ». Je relationne avec lui. Et ça, c'est très important. Souvent, l'épreuve, quelquefois l'épreuve, elle nous éloignerait du Seigneur. Puisqu'on ne comprend pas, on se dit « mais là, le Seigneur, il a perdu pied, là. Il sait pas ce qu'il fait. C'est tellement gros ce qui m'arrive. » Et ça nous freine à nous adresser à lui, dans le tutoiement, dans la confiance. Et nous devons lutter contre ça. Le Seigneur est proche et il va faire quelque chose dans sa proximité. Vous savez, dans sa main, il a une houlette et un bâton. Et son bâton, ce n'est absolument pas pour taper sur la brebis, c'est pour prendre la brebis qui est peut-être à un mètre de lui et avec son bâton, la rapprocher de sa jambe. Tu as peur ? Viens contre moi. Tu es effrayé ? Viens. C'est ça que fait le berger. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me rassurent. C'est mon réconfort. Alors, encore un mot sur le psaume 23, puis on passera au psaume 24. Psaume 23, le Seigneur marche devant au début. Il me conduit, il marche devant moi, il est devant, il fraye la route. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'épreuve, avec son bâton, il est à côté de moi. Et tout à la fin, on voit, oui, le bonheur et la grâce me suivront. Donc le Seigneur est derrière, il me suit par sa grâce. Mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui peut m'arriver, mes amis ? Qu'est-ce qui peut m'arriver si le Seigneur est devant, s'il est à côté et s'il est derrière ? Tout ça, parce qu'avant, il y a le psaume 22. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas comme ça. Ça ne vient pas tout. C'est pour ça que c'est difficile pour ce psaume 23. On le voit dans des films où il y a un enterrement. Bon, c'est bien qu'on se rattache à la parole de Dieu. C'est bien parce qu'il y a quand même des promesses. Mais ce psaume 23 s'adresse vraiment aux croyants qui sont des brebis. Vous comprenez? Donc, il est devant, il est à côté et il est derrière. Alors, pour passer au psaume 24, il y a « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». J'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est le futur. C'est le seul verbe d'ailleurs au psaume 23 qui est au futur. Tous les autres, c'est le présent. Psaume 24, ce sont les droits du Seigneur à entrer dans le sanctuaire, à entrer dans la maison. Bon, alors je ne vais pas faire un exposé eschatologique, je n'ai pas le temps, sur le retour du Seigneur. Peut-être on ne serait pas d'accord. Donc, je m'en abstiens. Mais on peut dire que quand même, il y a une chose sur laquelle on sera d'accord, c'est même si on peut penser que le Seigneur revient à Jérusalem, il entrera par la porte dorée. Je ne sais pas si ceux qui sont allés à Jérusalem, quand ils sont sur le mont Sion, nous y sommes allés avec Lilou trois fois, et chaque fois on est dans l'admiration, on voit de ce mont Sion, on voit toute la muraille de Jérusalem et la porte dorée qui est murée. Et les rabbins, les juifs disent qu'elle est murée jusqu'à ce que le Messie revienne. Nous aussi, on attend le Messie, mais pas pour la même chose. Et donc, cette porte qui est murée attend le retour du Messie. C'est merveilleux. Et donc, dans le psaume 24, il est question de porte. Alors, le Seigneur Jésus, lui, quand il est ressuscité et qu'il a été élevé dans la gloire, il s'est assis à la droite du Père dans la majesté. Et là, il est entré dans le sanctuaire, porteur, nous dit l'Épître aux Hébreux, de son propre sang. Et là, les portes se sont élevées. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit, mais moi j'imagine, quand Jésus est entré dans le ciel et qu'il est rentré pour s'asseoir à la droite de Dieu, la fête qu'il y a dû y avoir, et probablement qu'il y a eu quelque chose comme ça. « Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire, Jésus ressuscité, vainqueur de Satan, vainqueur du péché, vainqueur de tout, rentre et prenne sa place à la droite de la majesté. » Ce psaume nous invite à regarder notre association future, présente déjà par la foi, mais future avec le Seigneur. Oui, c'est l'espérance chrétienne. Nous attendons quoi? Nous attendons le retour du Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure. Le Seigneur revient bientôt. Et ce roi de gloire, il est digne de prendre cette place, ça j'ai oublié de le dire et je veux le souligner, de par ses droits à la création, parce qu'il a tout créé. Le Nouveau Testament nous dit que c'est Jésus qui a tout créé. C'est dit dans Jean 1, dans Colossiens 1 et dans Hébreux chapitre 1er. Il a tout créé par sa parole puissante, donc c'est lui qui a tout créé. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. On sait que c'est Jésus qui a créé le monde. C'est son droit à entrer dans la gloire. Le deuxième, c'est que pourquoi il... Vous savez, Jésus, il aurait pu remonter dans le ciel sans passer par la croix. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. Jésus, en tant qu'homme pur, totalement pur, il aurait pu dire « Seigneur, reprends-moi » et le Seigneur l'aurait repris. Mais son amour le poussait à aller jusque-là, jusqu'à la croix. Et cette vie pure et sainte lui donne le droit. C'est pour ça que la question, moi, elle m'a fait flipper quand j'étais jeune, cette question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui d'entre nous peut lever la main ce matin et dire « J'ai les mains innocentes, j'ai le cœur pur, donc je monte à la montagne de l'Éternel ». Un seul. Et s'il veut bien nous associer à lui, nous irons. Et il le fait. Il a dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, il nous associe à lui. Je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Il nous associe à lui. Grâce au Seigneur, nous pouvons aller jusque dans le saint lieu. Pour terminer, nous allons prendre la Sainte Cène et je vais l'introduire. Je me suis arrangé avec la présidence, avec Norbert. Nous allons prendre la Sainte Cène en nous souvenant ce qui vient d'être dit sur la personne de notre Seigneur. Vous savez, la Sainte Cène, ça représente le repas. Oui, alors ceux qui n'ont pas leur petit gobelet se font connaître à Magali et elle leur fera passer avec son petit plateau. Le repas de la Sainte Cène nous rappelle l'œuvre de Jésus qui est à l'origine de toutes les bénédictions dont j'ai parlé. Et évidemment, je ne les ai pas toutes nommées, les bénédictions qui découlent de la croix. Mais déjà, toutes celles que je vous ai nommées découlent de l'œuvre accomplie à la croix. C'est pour ça que nous pourrions prendre la Sainte Cène tous les jours. Nous n'épuiserions pas les thèmes de bénédiction qui découlent de la mort de Jésus. Alors ne croyez pas que si nous la prenons régulièrement toute la semaine, nous allons nous y habituer et nous allons dire « Oh là là, mais on s'habitue trop à la Sainte Cène, c'est pas possible, on va laisser passer, on va la mettre tous les 6 mois, comme ça. » Ça tient pas debout, ça. C'est comme le mari qui dit à sa femme « Je te dis pas trop je t'aime parce que j'ai peur que tu t'y habitues. » Quand nous allons prendre la Sainte Cène et qu'elle va passer dans les rangs, enfin non pas dans les rangs puisque nous avons notre gobelet, quand nous allons la prendre, pensons au psaume 22, pensons à l'œuvre accomplie, pensons aux bénédictions de protection du Seigneur, du bon berger qui nous garde devant, à côté et derrière. Pensons à Jésus qui revient bientôt. Il a dit « Faites ceci toutes les fois que vous en boirez jusqu'à ce que je vienne. » Donc le retour du Seigneur est envisagé dans la Sainte Cène. Eh bien, je vais prier pour le pain et puis nous prendrons le pain. Je prierai pour le vin et nous prendrons le vin. Seigneur, merci, merci, merci de tout cœur pour ton sacrifice. Merci parce que tu n'as pas hésité et tu es allé jusqu'au bout pour accomplir ce salut qui est pour nous, devant nous ce matin et dont nous sommes tellement émerveillés. Tu es allé jusqu'au bout, tu as donné ta vie, tu as souffert. Et nous voulons jamais de notre vie, jamais l'oublier, même quand l'épreuve est là, même quand c'est difficile, même quand nous n'y voyons plus clair, nous voulons nous rattacher à ce que tu as vécu pour nous à la croix. Et puis merci, merci parce que Seigneur, ton corps tu l'as donné et c'est ce que nous voulons nous souvenir en prenant le pain. Alors je vous invite à prendre le pain et à le manger en souvenir du corps du Seigneur offert, et aussi avec cette pensée que votre frère ou votre sœur qui est à côté de vous a la même part que vous dans le sacrifice du Seigneur. C'est pareil. Il n'y en a pas un qui a plus que l'autre. Nous sommes tous à égalité dans les résultats de la mort du Seigneur. Et puis Seigneur, que ton sang nous soit toujours précieux, que ton sang nous soit toujours précieux, ta vie offerte, parce que le sang, quand il est retiré du corps, c'est la mort. Que ton sang nous soit, ta vie offerte, nous soit toujours précieuse. Et nous voulons encore aujourd'hui, tous ensemble, nous en souvenir et repasser ces choses dans nos cœurs et repartir de ce culte, Seigneur, avec le sentiment que si tu es pour nous, mais qui peut être contre nous? Parce que tu as tellement donné et tu as tout fait pour que ce soit pour que ce soit viable et pour que ce soit éternel. Seigneur, merci pour ton sang versé.